Ce matin, au petit déjeuner, un frère m'a dit, une fois que le titre est donné, tu n'as qu'à te taire et rester en silence. Ce ne serait pas tout à fait ce que le Seigneur veut en nous créant. Il nous a créés comme des êtres de parole et non pas comme des êtres silencieux. Mais être des êtres de parole, ce n'est pas être des êtres de bavardage. Encore moins des êtres qui oublient d'écouter. Le fond de la parole humaine, c'est d'être un écho à la parole de Dieu, et donc elle s'enracine dans une écoute bienheureuse. C'est pourquoi je vais me risquer aussi, à partir bien sûr de tant et tant d'auteurs, de dire quelques mots sur cet aujourd'hui du grand silence sur la terre. Beaucoup d'entre nous étions tout à l'heure à l'office de lecture, et ce sermon de saint Épiphane est peut-être la plus belle homélie qui n'ait jamais été prononcée sur la terre. Je relis le début. Que se passe-t-il aujourd'hui? Grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude, parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair. Dieu a éveillé ceux et celles qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. Et toute l'homélie qui continue comme cela. C'est une homélie des tout débuts de l'Église. Une homélie n'explique rien. Une homélie ne cherche pas à démontrer une vérité. Elle admire. Elle contemple, elle écoute avec des frères. Elle se laisse librement saisir par la vérité. Elle ne prend pas la parole, elle est prise par la parole. Elle prend un frère et une sœur en bienveillance et elle entre avec eux dans un cheminement que la joie du ciel déjà sur la terre, rend plus facile. La passion du Christ, dit une autre homélie pascale, c'est le salut de la vie humaine. C'est pour cela que le Christ a voulu mourir pour nous. Pour que, croyant en lui, nous ayons la vie sans fin. Il a voulu devenir pour un temps ce que nous sommes, afin qu'ayant reçu la promesse de l'éternité, nous vivions sans fin avec lui. Telle est la grâce des mystères. Tel est le don de la Pâque. Telle est cette fête annuelle, si désirable, telle est l'aurore du monde nouveau. C'est pourquoi les premiers-nés, il parle des baptisés, mis au monde par cet enfantement qu'est le baptême de vie donné par la Sainte Église, régénérés dans la simplicité des enfants, font retentir les accents de l'innocence. C'est pourquoi des pères chastes et des mères pleines de pudeur engendrent par la foi une innombrable descendance nouvelle. C'est pourquoi sous l'arbre de la foi, du sein d'une source pure, brille l'éclat des cierges. C'est pourquoi ces enfants sont sanctifiés par le don d'une grâce du ciel et sont nourris par le mystère d'un sacrement célébrés dans l'esprit. C'est pourquoi une troupe de frères élevé sur les genoux de la Sainte Église pour former un seul peuple, adorant la nature de la divinité unique et le nom de sa puissance en trois personnes, s'unit au prophète pour chanter le psaume de la solennité annuelle « Voici le jour, déjà que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Et comment résister encore? Sinon, non, je ne résiste pas plutôt à vous lire encore un extrait d'une homélie ancienne, catéchèse dite mystagogique. Mystagogique vient de mystère qui veut dire sacrement. Cette homélie, comme toutes les homélies catéchétiques, mystagogiques, s'appuie sur les sacrements célébrés dans la nuit de Pâques pour en montrer le sens et pour le faire goûter admirablement. Vous avez été conduit par la main à la source du baptême. Comme le Christ est allé de la croix au tombeau qui est là devant vous. On a demandé à chacun s'il croyait au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Vous avez proclamé la confession de foi qui donne le salut. Et vous avez été plongé trois fois dans l'eau. Et ensuite, vous en êtes sorti. C'est ainsi que vous avez rappelé symboliquement la sépulture du Christ pendant trois jours. De même, en effet, que notre Sauveur a passé trois jours et trois nuits au cœur de la terre. C'est ainsi que vous, en sortant de l'eau pour la première fois, vous avez représenté la première journée du Christ dans la terre. Et la nuit en étant plongé. Celui qui est dans la nuit ne voit plus rien, tandis que celui qui est dans le jour vit dans la lumière. C'est ainsi qu'en étant plongé comme dans la nuit, vous ne voyez rien. Mais en sortant de l'eau, vous vous retrouviez comme dans le jour. Dans un même moment, vous mouriez et vous naissiez. Cette eau de salut est devenue à la fois votre sépulture et votre mère. Ce que Salomon dit à un autre sujet pourrait s'appliquer à vous. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Mais pour vous, c'était l'inverse. Un temps pour mourir et un temps pour naître. Un seul temps a produit les deux effets. Et votre naissance a coïncidé avec votre mort. Chose étrange et incroyable, nous n'avons pas été véritablement morts, ni véritablement ensevelis, et nous avons ressuscité sans être véritablement crucifiés. Mais si la représentation ne réalise qu'une image, le salut, lui, est véritable. Le Christ a été réellement crucifié. Réellement enseveli, et il a ressuscité véritablement. Et tout ceci nous est accordé par grâce, uni par la représentation de ses souffrances. C'est en toute vérité que nous gagnons le salut. Ô bonté excessive pour nous, le Christ a reçu les clous dans ses mains toutes pures et il a souffert. Et moi, qui n'ai connu ni la souffrance ni la peine, il me fait par pure grâce participer au salut. Personne ne doit donc penser que le baptême consiste simplement dans le pardon des péchés et la grâce de la filiation adoptive. Il en était ainsi pour le baptême de Jean-Baptiste, qui ne procurait que le pardon des péchés. Mais nous savons très précisément que notre baptême, s'il est purification des péchés, et s'il nous attire le don de l'Esprit Saint, est aussi l'empreinte et l'image de la passion du Christ. C'est pourquoi saint Paul proclamait « Ne le savez-vous pas, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été mis au tombeau avec lui par le baptême. » Hier soir, j'ai reçu un mail d'un frère évêque qui finissait par ces simples mots qui m'ont fait du bien. Saint silence et grande joie de Pâques. Saint silence et grande joie de Pâques. Le saint silence, c'est celui de l'amour et de la joie d'être unis ensemble au Christ. Dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Entre mort et résurrection, il y a le mystère d'aujourd'hui, le saint silence du samedi, du grand Shabbat. Si l'Église, dans sa liturgie, nous donne ce samedi saint comme un jour du grand silence, de quel silence s'agit-il ? Est celui d'une attente certaine de notre propre résurrection. C'est pour que nous aimions la parole faite chair pour notre salut et que nous l'aimions encore davantage. La parole est d'argent et le silence est d'or, dit le proverbe. Mais aujourd'hui, nous entendons mieux. Le Verbe se met en silence pour que notre bouche s'ouvre au chant de l'amour pascal. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qu'on puisse entendre, mais sur toute la terre, le message transparaît. Au début de cette retraite, j'avais cité Madeleine Delbrel. Reprenons-la. Quand nous parlons de nous-mêmes et par nous-mêmes, écrivait-elle, nous sortons du silence. Quand nous répétons avec nos lèvres les suggestions de l'Esprit, de la parole de Dieu au fond de nous, nous laissons le silence intact. Aujourd'hui, nous apprenons à laisser intact en nous le beau silence du Verbe de Dieu fait chair. Le beau silence du Verbe de Dieu descendu jusque dans les ténèbres pour nous apprendre à commencer enfin à parler avec droiture et vérité. Pour commencer enfin à écouter. Surtout à écouter, car il n'est aucune parole bonne et vraie qui ne procède d'une écoute amoureuse. Tel est Jésus, dont un ami africain m'avait dit un jour, il est le parfait écoutant du Père. Ne l'avait-il pas dit aux disciples, tout ce que je vous ai dit, c'est de mon Père que je l'ai appris. Oh oui, beau et saint silence que celui d'aujourd'hui, grand silence sur toute la terre. C'est facile de dire cela à Paray le Monial aujourd'hui, quand tant et tant de fracas, de bruits, de ricanements ne cessent d'envahir les oreilles et les conversations du monde. Peut-être, et pourtant, nous voudrions partager au monde ce saint silence du Verbe fait chair, pour que les ennemis enfin se parlent, plutôt que de se tuer, pour que le chant des oiseaux et les cris de joie des enfants ne soient plus couverts par celui des canons et la détresse des désespérances humaines. Car la terre, oui, la terre, notre terre, aura un époux. On ne te nommera plus délaissé, ni ta terre abandonnée. On te nommera l'épousé, comme dit l'Écriture. Quel est donc, encore une fois, ce saint silence auquel nous sommes conviés? Celui d'un infini respect et celui d'une attente espérante. Une attente espérante, oui. Une attente dont on sait qu'elle ne sera pas déçue. Je sais que mon Rédempteur est vivant et de mes yeux de chair je verrai Dieu, disait déjà le vieux Job dans son épreuve. Le psaume 16, surtout la fin de ce psaume, le dit. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi, sans relâche. Et puisqu'il est à ma droite, je ne peux pas chanceler. Ce psaume viendra sur les lèvres de l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi bien, n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir, car Dieu a dit à son sujet, et voilà le psaume, « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Aussi mon cœur s'est-il réjoui et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès et que tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Tu m'as fait connaître des chemins de vie. Tu me rempliras de joie en ta présence. » Et Pierre continue après, il est permis de vous le dire en toute assurance, etc. Je regarde l'heure, oui. Nous avons hier après-midi médité un moment la présence de Marie dans le mystère pascal de son fils. Un bref écrit d'une provençale dans sa prière à la Sainte Mère de Dieu, prière écrite en mai 1939. Sainte Vierge Marie, comme vous êtes silencieuse et toute cachée en Dieu, vous êtes le modèle incomparable de ma vie secrète. Il me semble vous voir en tout si semblable aux autres femmes de Galilée, qu'en vous croisant sur le chemin, personne ne pouvait soupçonner le mystère que vous portiez en vous, mais s'étonner seulement de se sentir meilleur à votre approche. Comment ne pas évoquer dans ce mystère du silence l'époux de Marie, Joseph. Joseph qui traverse toute l'Écriture sans un seul mot. Joseph qui n'était pourtant pas muet, Joseph qui s'est laissé éclairer profondément dans la nuit, comme la nuit du tombeau. Le songe de Joseph, c'est déjà la descente de l'humanité dans les ténèbres où Dieu seul vient nous saisir. Et les beaux projets qu'il avait formés, qui étaient venus dans son cœur, n'étaient pas des mauvais projets. C'étaient les projets d'un homme saisi par la Torah, la loi juste de Dieu. Et voilà que cette Torah, cette loi juste de Dieu inscrite dans le cœur de Joseph, non seulement n'est pas supprimée, mais elle est élevée. N'aie pas peur, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et plus tard, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et viens revivre toute l'histoire de ton peuple. Ne te pense pas en dehors de l'histoire de ton peuple. Viens revivre charnellement l'expérience de tes pères. Fuis en Égypte et de là je t'appellerai. De là je te ferai sortir, de là je te conduirai vers la terre où les ennemis n'existeront plus et ne viendront pas en vouloir à l'enfant. Et voilà que pendant 30 années, presque une vie entière, 30 années, le Verbe de Dieu n'a pas connu, comment le dire, en tout cas a été protégé de bien des manières parce que personne ne pouvait soupçonner le mystère de cet enfant, et surtout pas le diable, qui du coup n'avait aucune prise sur ces 30 années de vie cachée, enfouie dans le silence ordinaire de la vie des hommes. Et c'est au jour, à l'heure, fixée par le mystère même du Père, que le Fils entrera dans le grand combat. C'est la tentation au désert, et puis c'est toute sa vie dite publique, comme si Nazareth n'était pas une vie publique. Nazareth était une vie cachée en plein cœur du monde. Nous sommes invités, je crois, frères et sœurs, à réfléchir, pas seulement avec notre tête, mais avec l'expérience que le Saint-Esprit met en nous, sur ce que veut dire écouter, ce que veut dire parler, ce que veut dire ne pas partir de nous-mêmes, ne pas prendre, comme on dit, la parole. Et notre société nous forme tellement souvent à communiquer des messages que c'est fatigant. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Transmettre la bonne nouvelle, ce n'est pas communiquer un message. Non, c'est écouter le Christ avec des frères. C'est nous livrer à cette belle expérience qui fait que nous sommes arrachés à nos propos trop humains, non pas du tout pour parler de Dieu, comme on dit quelquefois, mais pour parler simplement, pour écouter simplement. Et pour ne pas faire entrer les autres dans ce qui est la caricature du silence, qui est de les faire taire. Tant et tant de voix, tant et tant de propos veulent étouffer les paroles humaines. C'est l'inverse que le Christ vient faire. Il libère en nous la capacité, comme lui, de vivre pleinement notre vie humaine en accueillant la souffrance et la mort comme le passage nécessaire à la vie, et pas autrement. Nous demandons en ce samedi saint, d'abord nous rendons grâce d'être ici ensemble, car ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion d'être paisiblement et disponibles à la prière et à la vie fraternelle. Nous demandons que le Seigneur, peu à peu, nous fasse aimer non pas le silence d'isolement, mais le silence qui permet justement de recevoir la parole des frères, de parler nous-mêmes et surtout d'être entraînés dans la louange, dans l'Eucharistie pascale. Bon samedi saint, bon silence, et demandons que la terre entière soit imprégnée de cette grâce du samedi saint.